Chapitre 4. Monsieur Dubreuil, bien loin de soupçonner que ses moindres paroles étaient espionnées par des adversaires indélicats, avait tiré de sa poche le volumineux message du bonze Patnum Kay. « Mes amis, dit-il à Georges et à Jean, dont la curiosité était excitée au plus haut point par tous ces préambules, on m'adresse une proposition aussi avantageuse qu'inattendue. Mon ami, le bonze Patnum Kay, est aujourd'hui supérieur d'un monastère aux environs de Lhasa. Grâce à sa vive intelligence et à l'étude qu'il a faite de la science et des arts de l'Europe, il est parvenu à jouir d'une grande faveur à la cour du grand lama, cette espèce de pape bouddhiste qui, du fond des déserts glacés du Tibet, dicte ses volontés à 300 millions de fidèles. Peut-être vous propose-t-on de vous faire devenir lama vous-même, dit Jean Cascaret. Timothée Fram et Tsien Tsilou écoutèrent de toutes leurs oreilles. Sans prendre la peine de répondre à Jean, M. Dubreuil continua. Mais il se passe en ce moment d'étranges choses à la cour de Lhasa. Le bouddhisme va sortir de son immobilité séculaire. Les lamas, qui sont les premiers diplomates du monde, vont entrer dans la voie de la politique active. Voilà un précieux renseignement, murmura par soi Timothée Fram. Je vois, dit Georges Fromentier, la matière d'un article sensationnel pour le Temps ou le Figaro. Ce n'est pas tout, continua M. Dubreuil. Les lamas ont décidé de civiliser par les arts et l'industrie les régions immobiles et glacées qu'ils habitent. « Ah, je comprends, interrompit Jean, avec sa vivacité ordinaire. Ils veulent construire des chemins de fer et vous nommer ingénieur. » M. Dubreuil ne put s'empêcher de sourire. « Oh, vous exagérez, mon jeune ami, dit-il paternellement. Le grand lama n'a pas encore une idée de pourvoir les hauts plateaux de l'Himalaya de locomotives à grande vitesse. » Mais il y a du vrai dans ce que vous venez de dire. Il est exact que, par l'intermédiaire de mon ami Patnum Kay, on réclame au Tibet mes services comme ingénieur. Pas possible ! S'écrièrent à la fois les deux cousins avec stupéfaction. Oui, en deux mots, voici la chose. Les lamas ont découvert dans le Dvalagiri une mine d'or d'une fabuleuse richesse. Patnum Kay, qui sait que je ne suis ni un intrigant ni un malhonnête homme, a parlé de moi. On m'offre de venir organiser, d'une façon pratique et scientifique, l'exploitation de ces riches gisements de minerais. Ces trésors iront s'ajouter dans les catacombes des palais de Lhasa à ceux que des millions de bonzes mendiants recueillent dans toute l'Asie et même dans une partie de l'Océanie pour le chef suprême du bouddhisme. « Et les appointements ?» demanda Georges. « Mais des appointements royaux, mon cher ami. 10 000 taels par mois, de quoi refaire ma fortune en quelques années. » Georges Fromentier demeura songeur. « Eh bien, quelle est votre opinion ?» lui demanda M. Dubreuil. « À vous dire vrai, répliqua Georges gravement, cette proposition n'a qu'un seul défaut à mes yeux. Elle est trop mirifique, trop alléchante. » « Qui vous dit qu'elle ne cache pas un piège ?»« Oh, pour cela, j'ai toute confiance. Patnum Kay est d'une honnêteté et d'une probité à toute épreuve. Les Tartares et les Tibétains, d'ailleurs, vous ne l'ignorez pas, sont aussi loyaux que les Chinois sont rusés et malhonnêtes. J'ai toutes les raisons possibles de regarder la proposition qui m'est faite comme très sérieuse. »« Mais, fit Jean, avez-vous songé au danger du voyage ?» Oh, ce danger se réduit à peu de choses. Sitôt que nous serons sortis du territoire chinois, nous serons sous la protection du grand lama, dont le nom est respecté les tribus les plus féroces. Oui, mais pour gagner les frontières de la Chine. La traversée des provinces, qui s'étendent entre Canton et la frontière du Tibet, offre une sécurité presque complète, à condition toutefois que l'on ait soin de se munir de bons passeports, délivrés par les autorités chinoises, et que l'on adopte pour itinéraire, la ligne de grandes villes populeuses et florissantes que l'on rencontre dans toute la vallée du Yunnan. Dans ces villes, l'ordre même au plus fort de la guerre n'a jamais été troublé. Les populations sont paisibles et les mandarins très obéissants au pouvoir central. Vous reste-t-il d'autres objections ? Non. Alors, vous me conseillez d'accepter? Je trouve la proposition très avantageuse, répondit Georges. Et moi, je la trouve merveilleuse, ajouta Jean. Vous allez faire un superbe voyage et vous deviendrez riche comme un calife des mille et une nuits. Les trois amis s'étaient levés. Au moment de partir, Georges dit à M. Dubreuil: Serez-vous chez vous vers 5 heures? J'aurai deux mots à vous dire. Monsieur Dubreuil regarda le jeune homme. Il avait prononcé ces dernières paroles avec une gravité un peu mystérieuse. Mais certainement, mon cher ami, répondit l'ingénieur, je suis tout à votre disposition. Je vous attendrai à 5 heures avec Germaine. La maison de thé avait deux issues. Pendant que M. Dubreuil, très en retard ce jour-là pour son déjeuner, prenait congé de ses deux amis, Timothée Fram et Tsien Lifou s'éloignaient déjà par une ruelle parallèle et se dirigeaient vers le port. Bien, voilà une matinée bien employée, dit le reporter anglo-saxon. Ah, fit Yen Sil, vous ferez peur. Si grâce à votre gouvernement, nous pouvions mettre la main sur cette fameuse mine d'or. Bon, je ne fais que penser à cela, mais pourtant, il y aurait bien un moyen. Lequel? Bien, épouser la fille du français, Germaine Dubreuil, dit froidement Timothée Fram. Le Chinois eut un gros rire, qui fit tressauter son ventre de poussin et agita de joyeux frétillements la longue queue dressée qui ornait son crâne. Ah, par exemple, vous êtes un homme pratique. Par malheur, ce beau projet ne tient pas debout. Mademoiselle Dubreuil aime votre collègue, le journaliste. Non, je ne crois pas. Mon fidèle Joe, qui les espionne de très près, est sûr que Germaine a refusé la main du Français. Alors, s'écria Tian Lifou avec vivacité, hâtez-vous, perdez pas une minute. Il faudrait que vous ayez fait votre demande avant que M. Dubreuil n'ait parlé de son voyage et de la mission qui lui est confiée. Autrement, on supposerait que vous n'avez agi que par intérêt. Dans le cas contraire, vous passez pour le type du désintéressement, le plus héroïque et le plus chevaleresque. Mieux que personne, Timothée Fram connaissait le prix du temps. Quelques secondes après, il sautait dans un pousse-pousse, et grâce à un double pourboire donné au coolie, il arrivait à la porte de M. Dubreuil un quart d'heure environ avant le retour de celui-ci. Le reporter fut accueilli d'une façon assez maussade par Jannick, la bonne de Germaine. En sa qualité de Bretonne, elle avait pour les Anglais une antipathie des plus marquées. De plus, elle rougissait pour ses maîtres du délabrement de l'habitation. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, Germaine, croyant voir arriver son père, s'était précipitée. À la vue de l'insulaire qui inclinait respectueusement, elle ne put réprimer un mouvement de surprise et de mauvaise humeur. Mademoiselle, dit gravement Timothée, pourrais-je voir M. Dubreuil? Ah, je regrette vivement, mais il est sorti. J'ai même quelque inquiétude au sujet de cette absence. Il devrait être de retour depuis au moins 1 heure. L'Anglais parut hésiter, puis, prenant brusquement son parti: Mademoiselle, ce que j'ai à dire à M. Dubreuil vous concerne d'une façon toute spéciale. Je préfère même, à certains égards, avoir affaire à vous qu'à lui. Pouvez-vous m'accorder un instant d'entretien? Germaine était fort étonnée. Elle ne connaissait Timothée Fram que pour avoir fait avec lui quelques tours de valse dans les salons de l'ambassade anglaise. Mais il règne une grande liberté de mœurs et d'allures entre les habitants de la concession européenne à Canton. Germaine n'avait aucune raison de refuser à Timothée Fram le moment d'entretien qu'il sollicitait. Entrez dans le petit salon, fit-elle prévenante. Mais vous avez appris sans doute notre prochain départ. Nous avons dû vendre la plupart des meubles qui garnissaient l'habitation. Timothée Fram esquissa un sourire de condescendance polie. Oh, j'en ai vu bien d'autres pendant mon existence de globe-trotter. La conversation languit pendant quelques instants. Timothée Fram ne savait comment arriver à faire sa déclaration. et avec sa décision habituelle, il prit le parti de brusquer les choses. « Mademoiselle, » dit-il, en essayant de donner à sa figure revêche et dure une expression de grâce et d'amabilité, passionnée, « vous devez être surprise de l'audace et du sans-gêne de ma visite. Je vais aller droit au but. Vous savez qui je suis. » Oui, Sir Fram, vous m'avez été présenté par Son Excellence Lord Hamilton, le ministre plénipotentiaire du Royaume-Uni. Oui, je sais que vous vous êtes fait un nom illustre dans la grande presse internationale. Ces renseignements sont exacts, dit Timothée Fram, quoique vous leur donniez une forme trop élogieuse. Oh, je ne suis qu'un simple reporter, un peu plus connu que les autres, peut-être, mais voilà tout. Mais il y a longtemps, mademoiselle, que j'éprouve pour vous une passion respectueuse et jusque-là ignorée de tous. Monsieur ? Fit Germaine au comble de l'étonnement. Oui, je parle très sérieusement. Jusqu'ici, je n'avais jamais osé vous déclarer mes sentiments, mais j'avais appris incidemment votre prochain départ. C'est cette circonstance qui m'a décidé à brûler mes vaisseaux. Germaine avait eu le temps de se remettre un peu de la surprise que lui causait cette proposition. Elle se préparait à répondre par un refus poliment motivé lorsque le timbre retentit et l'ingénieur Dubreuil fit son apparition. « Père !» s'écria Germaine avec vivacité, « voici M. Timothée Fram qui était venu te demander ma main. »« Par exemple !» s'exclama M. Dubreuil, partagé entre la surprise et une violente envie de rire. « Mais, monsieur, ajouta-t-il, vous ignorez donc que je suis ruiné, que nous repartons pour l'Europe, qu'en ce moment ma fille et moi ne saurions donner suite à aucun projet de ce genre ?» Timothée Fram se retira, légèrement mécontent, mais nullement décontenancé. Il pria M. Dubreuil et sa fille de réfléchir, les assura de son inaltérable dévouement en les priant de disposer de lui et de ses amis en toute liberté. Cette journée devait être la journée des surprises. M. Dubreuil venait de se mettre à table et il allait exposer à Germaine les propositions aussi merveilleuses qu'il attendait du lama Patlumke lorsque le timbre de la porte d'entrée retentit à nouveau. Monsieur Dubreuil se levait déjà avec impatience pour y conduire lui-même l'important, lorsque l'honnête Onésime Rougeau présenta à son maître un sac de cuir assez volumineux. « Qu'est-ce cela ? » demanda Germaine. « Mademoiselle, reprit Onésime, c'est un coulis qui vient de me remettre cela pour vous. Il était très pressé et n'a même pas voulu entrer. » Germaine s'empressa d'ouvrir le sac. Elle ne put retenir un cri d'étonnement. Le sac de cuir était rempli de belles guinées d'or. Eux en avaient bien pour 1 000 000 de livres sterling. « Mais d'où diable cela veut-il venir ? » s'écria M. Dubreuil, « on a dû se tromper. » Mais il n'y avait aucune erreur possible. L'adresse de l'ingénieur était libellée à l'encre de Chine, en anglais et en français. « C'est peut-être Timothée Fram, » dit hasarda Gerdem en riant. « Il veut sans doute conquérir ma main grâce à ses arguments sonnants et trébuchants. »« Oh, je croirais plutôt, » répliqua M. Dubreuil, « que cette somme nous est adressée par nos amis Georges Fromentier et Jean Cascaret. » Germaine ne répondit pas, mais au fond, elle partageait l'avis de son père. « Monsieur, » cria-t-elle, « que veulent-ils donc que nous fassions de cet argent ?» « Mais c'est pourtant pour survenir à nos frais de voyage, de Canton à Lhassa. »« Comment, à Lhassa ?»« Ah, c'est vrai !» s'écria M. Dubreuil. « Je ne t'ai pas encore mis au courant de tout ce qui arrive. » En quelques mots, l'ingénieur exposa à sa fille les événements qui s'étaient produits dans la matinée et qui avaient été la cause de son retard. « Eh bien, que dis-tu de cela, ma chère Germaine ?» demanda l'ingénieur en terminant. « Tu sais, si tu vois le moindre obstacle à ce voyage, je refuse net la proposition de mon ami Patlunke. Si je refuse un nom, par exemple, j'en suis enchanté, au contraire. Jamais nous ne trouverons une meilleure occasion de visiter le pays des sectateurs du Dalaï Lama. Tu sais, père, je ne suis pas une femmelette. Je t'ai accompagné bien souvent tes explorations dans les jungles du Haut Tonkin. Monsieur Dubreuil serra Germaine contre son cœur avec émotion. Mais avec tout cela, dit Germaine, nous ne savons pas qui nous a envoyé ce sac d'or. Le père et la fille savaient comment résoudre cette question. Quand Onésime m'introduisit Georges Fromentier et son cousin. Merci, Georges, merci de tout mon cœur, dit Germaine en lui tendant les mains. Merci, mais pourquoi, mademoiselle? Pas de l'inespéré secours que vous nous avez envoyé. Devant la mine stupéfaite de Georges, la jeune fille devina de suite qu'elle s'était trompée. Comment, dit-elle, ce n'est pas à vous que nous devons ces 1 000 livres? Ah, certainement non, mademoiselle. Alors, dit monsieur Dubreuil, tu avais raison, c'est peut-être que Timothée Fram. Timothée Fram, répondit Georges, vous voulez rire? Il est criblé de dettes. On dit même qu'un de ses principaux moyens d'existence est de renseigner le Foreign Office. Mais quel est le compte exact de cette somme? Demanda Jean. Tiens, au fait, nous ne l'avons pas compté, dit monsieur Dubreuil. Et ce disant, il renversa le sac sur une table. Un carré de papier de riz apparut au milieu des pièces d'or. Jean Cascaret s'en empara et le tendit à monsieur Dubreuil, qui déplia rapidement le papier, il lut ces mots tracés en caractères tibétains. Le lama Patlunkei à l'ingénieur Dubreuil. Patlunkei, oh, mais j'aurais dû m'en douter. Cet argent, mes amis, m'est expédié du Tibet pour les premiers ferrets de notre voyage. Du haut de son piédestal, le Bouddha de bronze semblait sourire à cette scène de famille. Chapitre 5. Maintenant que voilà nos doutes éclaircis, dit Georges, je vais vous adresser une demande, monsieur Dubreuil. Voulez-vous nous permettre, à mon cousin et à moi, de vous accompagner dans votre expédition? Oh, certainement, répliqua Germaine avec joie. De cette façon, ce voyage va devenir une vraie partie de plaisir. Mes chers amis, dit monsieur Dubreuil, très ému, il ne faudrait pas que pour le seul plaisir de nous accompagner, ma fille et moi, vous vous exposiez. Pardon, interrompit Jean, ne vous avez-vous pas affirmé ce matin que, selon vous, ce voyage ne présente pas plus de danger qu'une simple promenade de Paris à Saint-Cloud par le bateau-mouche? D'ailleurs, ajouta Georges, ce voyage sera pour nous aussi, sachez-le bien, l'occasion d'une excellente affaire. Cet après-midi, j'ai câblé aux représentants des diverses feuilles où je collabore. De partout, j'ai reçu des réponses favorables. Tous les articles que j'écrirai en cours de route sont pris d'avance et payés au prix d'or. De plus, on m'alloue 10 000 francs pour mes frais. Vous le voyez, grâce à vous, j'aurais fait une brillante combinaison. Et moi, s'écria Jean, grâce à mon cousin, je débute aussi dans la presse et je vais écrire, conseillé par lui, ma première relation de voyage. Mes sincères félicitations, mes chers amis, dit Germaine en tendant la main aux deux jeunes gens. Attendez, mademoiselle, ce n'est pas tout. Georges a su cet après-midi un long entretien avec le consul de France. Il est chargé d'une mission politique très importante. Il s'agirait de négocier avec les représentants du Grand Lama, l'établissement d'une ligne télégraphique destinée à relier directement l'Asie russe aux possessions françaises du Tonkin en passant par l'Himalaya. Voilà qui ne va pas être du goût de nos bons amis les Anglais, s'écria monsieur Dubreuil. Et voilà encore du travail pour toi, père, fit Germaine. Tu obtiendras peut-être la concession de la ligne télégraphique et de la ligne de chemin de fer, que l'on ne saurait manquer de construire par la suite. Mademoiselle Germaine, dit Georges gravement, croit plaisanter. Elle ne dit que l'exacte vérité. Mon rôle à moi dans la mission sera purement diplomatique. C'est Monsieur Dubreuil qui sera chargé des questions techniques. Le ministre plénipotentiaire de France l'attend aujourd'hui même. Et vous, Monsieur Jean, fit malicieusement la jeune fille, vous n'avez aucun poste officiel dans la mission? Jean était doué d'un excellent caractère. Mais j'en serai l'historiographe, dit-il en riant. Le temps qui ne sera pas consacré à ma relation de voyage, je l'emploierai à vous distraire en vous donnant des leçons de tibétain. Voilà une distraction qui n'est pas d'une gaieté folle. Pourquoi ne me proposez-vous pas de jouer au loto ou au bésigue chinois? En entendant les éclats de rire des deux jeunes gens, Georges s'était rapproché. Vous savez, lui dit Germaine, que vous avez maintenant un concurrent redoutable. J'ai été, ce matin même, l'objet d'une demande très flatteuse. Et de la part de qui? Oh, vous seriez bien étonné si je vous disais, devinez. Oh, ben, enfin, je ne sais pas. Mais je ne vais pas avoir la cruauté de vous faire attendre plus longtemps. On dirait que vous êtes sur des charbons ardents. Eh bien, j'ai été demandé en mariage par votre collègue Timothée Framme. Tout le monde rit aux éclats et Jean ne manqua pas de se livrer à une foule de plaisanteries sur la démarche raide du reporter et sur le ton carotte clair de sa barbe et de ses cheveux. Personne ne soupçonnait dans quel but intéressé le peu scrupuleux Anglais était venu faire sa demande en mariage. Pendant que chez M. Dubreuil on se livrait sur son compte à une foule d'innocentes plaisanteries, Timothée Framme s'était rendu, en compagnie du Chinois Lien Lifou, chez le ministre anglais, Lord Robert Hamilton. Timothée Framme et Lien Lifou demeurèrent longtemps enfermés dans le cabinet de Lord Hamilton. Quand ils en sortirent, reconduits par lui, ils étaient radieux. Tous deux avaient en poche des chèques pour une somme considérable sur une banque anglaise de Canton, et la serviette de maroquin noir de Timothée Framme était bourrée de plans, de lettres et d'autres documents confidentiels. Le diplomate anglais était aussi très satisfait. Il reconduisit ses hôtes avec son plus aimable sourire jusque sur le palier. « Mais j'y pense, » dit-il à voix basse à Timothée Framme, comme ils allaient se séparer. « Vous êtes une personnalité trop connue dans la presse, pour que votre départ demeure ignoré. Et vous savez qu'il est de la plus haute importance, aussi bien au point de vue commercial qu'au point de vue politique, que l'on ne connaisse pas le véritable but de votre voyage. Bon, j'y ai songé, j'ai déjà trouvé un moyen de donner le change à l'opinion. On saura que je pars, mais on sera sans lieu de se douter du véritable but de l'expédition que j'entreprends. C'est bon, il suffit. J'ai toute confiance en vous, surtout ne ménagez pas l'argent. Faites donner en toute occasion la cavalerie de Saint-Georges. D'ailleurs, vous savez que si vous réussissez à faire triompher au Tibet l'influence anglaise, évincer du plateau central les Français et les Russes, une riche dotation vous attend en Angleterre. Un titre de comte, la prairie, la pairie peut-être. Le Parlement ne récompense jamais à demi ceux qui l'ont bien servi. Timothée Framme eut un sourire. Ben, « Je ne vous cache pas, dit-il, qu'au cours de ce voyage, je ne négligerai pas mes intérêts personnels. Il y a certaines affaires excellentes qui devaient échoir à l'ingénieur français et qui deviendront probablement mon lot. Tant mieux, vous vous en servirez qu'au mieux si vous êtes personnellement intéressé au succès. Je ne vous fais pas de questions. Chacun ses affaires. » Lord Hamilton rentra dans ses appartements après avoir échangé avec ses visiteurs un cordial check-end. Pendant tout ce dialogue, Tsien Sifu était resté silencieux. Il se contentait d'opiner du bonnet et une flamme de satisfaction éclairait ses petits yeux bridés. Pendant qu'il emmenait Timothée Framme jusqu'à sa luxueuse habitation de la ville chinoise, Il en devint un peu plus loquace. L'entrevue s'est passée admirablement, fit-il. Lord Hamilton vous protégera de tout son pouvoir, et comme je lui ai promis, je vais ces jours-ci mettre tout en œuvre auprès des hautes mandarins, mes amis, pour que vous soyez admirablement accueillis par les autorités dans toutes les villes de l'Empire du Milieu que vous traverserez. Vous serez reçu comme jamais Européen n'a été reçu en traversant la Chine. « Bon, vous avez tout intérêt à ce que je réussisse, » répliqua Timothée Fram. « Vous savez ce qui est convenu entre nous. Vous me fournirez les premiers fonds nécessaires à l'exploitation de la mine d'or, nous en serons les deux seuls concessionnaires. Nous en partagerons les bénéfices intégralement. » « Convenu. Demain, les contrats seront prêts, rédigés en langue chinoise. En chinois et en anglais, je l'exige. » Ils seront légalisés chez le magistrat chinois et au consulat d'Angleterre. Bien Lin Fu fit une légère grimace. Soit, dit-il, mais avez-vous songé à votre escorte? Oui, j'emmènerai mon domestique John Murdoch, et vous me trouverez parmi ceux que vous connaissez une cinquantaine de porteurs chinois, aussi robustes et aussi fidèles qu'il sera possible. Je ferai mieux. Je vous donnerai à titre d'escorte un petit corps de réguliers de l'armée chinoise, commandé par un officier chinois de mes amis, Lu Chang, qui déteste tous les Français d'une haine mortelle. Lui et sa troupe pourront vous être précieux à l'occasion. Mais peut-être, murmura le reporter d'un air sombre. Mais cette jeune Française dont vous aviez demandé la main, la fille de l'ingénieur Dubreuil, qu'en adviendra-t-il si nos projets réussissent? Ah, vous êtes trop curieux, maître Tian-Si-Fu. Ceci, c'est mon affaire. Du moment où, grâce à moi, nous arriverons à doubler mon énorme fortune, vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage. Le Chinois crut avoir compris, et un rire cruel illumina sa face. Les deux hommes se séparèrent à la porte de Tian-Si-Fu, et Timothée Fram s'occupa, sans perdre un instant, de ses préparatifs de départ. De leur côté, bien qu'ils ne fussent pas au courant des projets de leur rival, l'ingénieur Dubreuil, Georges Fromentier et Cascaret s'occupaient aussi d'organiser leur expédition. Ils couraient toute la journée chez le consul de France, chez les marchands, aux ambassades, et Germaine passait des heures à dresser d'interminables listes d'achats. Comprenant l'importance du voyage de l'ingénieur Dubreuil et de ses amis, le consul de France avait mis à leur disposition 40 tirailleurs annamites, tous dévoués à la France, et qui étaient enchantés, leur service militaire terminé, d'entreprendre une expédition comme celle qui était projetée. Ils étaient commandés par le sergent Léon Paulet, un vieux brave qui avait fait toutes les guerres coloniales. Il avait été convenu qu'on emmènerait aussi Pao Ting, le dernier survivant des travailleurs de la plantation détruite. Jannick Madurek avait déclaré qu'elle n'abandonnerait pas sa maîtresse, et Onésime Rougeau, aussi attaché à l'ingénieur Dubreuil qu'il était sincèrement épris de Jannick, avait supplié qu'on l'emmenât. Des porteurs chinois devaient compléter l'effectif de la caravane. L'expédition s'annonçait sous les plus heureux auspices. Chaque soir, Jean Fromentier et Jean Cascaret venaient prendre le thé dans le petit salon dont Germaine faisait les honneurs, avec sa gaieté et sa bonne grâce accoutumée. La jeune fille se montrait très préoccupée du costume qu'elle adopterait. Enfin, sur les conseils de Jean Cascaret, très expert sur les questions de mode, elle s'était fait commander trois élégants complets de bicycliste, avec jupe culotte et brodequins lacés très haut et ceinture de cuir, pouvant au besoin supporter un poignard et un mignon revolver à crosse de nacre. Un casque colonial avec voilette très ample, un appareil photographique et une carabine de précision devaient compléter cet équipement. Un des complets était en étoffe kaki. Les deux autres en soie grège de Chine, presque indéchirable et dont le ton d'un roux doré est des plus agréables à l'œil. Mais voilà qui est excellent pour le début du voyage, alors que nous traversons les régions chaudes ou tempérées de l'Empire chinois. Mais une fois dans les déserts glacés du Tibet et dans les solitudes polaires de l'Himalaya, il faudra d'autres vêtements, fit observer l'ingénieur Dubreuil. Mais voilà qui est exact, mon cher père, répliqua Germaine. Aussi achèterons-nous aux premières peuplades que nous rencontrerons les larges pantalons, les bonnets ovales et les amples tuniques de feutre brut qui sont en usage dans ces régions et qui sont l'unique costume des Tchouktches, des Kirghiz, des Bashkirs et des Kalmouks. Bon, ce sont des costumes, s'écria Jean Gascaré, que les meilleurs tailleurs anglais ou français de canton seraient bien en peine de vous fabriquer. La conversation en était là lorsque Georges Formentier, que le soin de terminer sa correspondance avait un peu retardé, fit son entrée. Il brandissait un numéro du New York Herald. « Bien, j'ai du nouveau à vous annoncer, s'écria-t-il. Il s'agit de Timothée Fram. » « Décidément, s'écria Germaine, j'ai un amoureux bien encombrant. On est toujours forcé de s'occuper de lui, mais qu'a-t-il donc fait encore ?»« Lisez !» Germaine Dubreuil repoussa le journal que Georges Fromentier lui tendait tout grand ouvert. « Non, non, merci, dit-elle, je ne parle pas assez bien l'anglais pour traduire aussi vite que je lirai. Monsieur Cascaret, qui sort tout frais et moule de son lycée, va nous en servir d'interprète. » Jean s'empressa d'obéir aux ordres de la jeune fille. Voici in extenso de quoi il s'agissait. Nouvelle sensationnelle. Un hardi explorateur. Le tour du monde en zigzag. Du pôle à l'équateur. À travers l'inconnu. Le roi des globe-trotteurs. New York, le 25. Un de nos plus habiles et de nos plus célèbres reporters de la presse internationale, M. Timothée Fram, en ce moment à Canton, où il suit les dernières péripéties de la guerre, nous écrit qu'il va tenter de faire le tour du monde dans des conditions exceptionnelles. À cette époque où les globe-trotteurs essayent de gagner le record du moindre temps, notre distingué confrère, considérant ce voyage comme un simple jeu d'enfant, a décidé de se lancer à travers l'inconnu, sans se fixer d'itinéraire, mais se proposant de traverser, sans autre escarte que son domestique Joe Murdoch et quelques porteurs, les contrées les plus mystérieuses des cinq parties du monde. Il commencera par visiter les contrées encore inexplorées du Tibet, du désert de Gobi et de la Sibérie méridionale. De là, il franchira les déserts de Syrie et d'Arabie, traversera l'Afrique de Djibouti à Saint-Paul-de-Luanda. De là, il s'embarquera pour la Patagonie, qu'il explorera du détroit de Magellan à la République argentine, visitera le désert du Grand Chaco, les forêts vierges du Paraguay et du Brésil, les pics encore inexplorés des Cordillères. Il fouillera les ruines des anciennes villes asiatiques, aztèques et toltèques, poussera jusqu'à l'Alaska et au Comdique. Puis il fera une longue croisière à travers les archipels de l'Océanie et de la Mélanésie, traversera l'Australie de Sydney à Melbourne et reviendra à Canton par les îles de la Sonde. Nous ajouterons que les nombreux journaux dont notre confrère est correspondant ont accueilli avec enthousiasme cette idée originale. Les listes de souscription ouvertes en faveur de ces hardis globe-trotteurs se couvrent rapidement et les noms des plus grands personnages d'Amérique y figurent en première place. Nous souhaitons bonne chance à notre confrère. Nous espérons qu'il accomplira ses longs voyages aussi rapidement que possible, et qu'il reviendra dans sa chère patrie couvert de gloire. Hourra pour Timothée Fram, Hurrah, hurrah, vive le roi des Globe-Trotters! Mais ce Timothée Fram est d'une audace extraordinaire! S'écria Cascaret avec enthousiasme. Merveilleuse, fit Germaine, incomparable! Oh, s'il réussit, il pourrait être considéré comme le plus illustre et le plus brave des voyageurs passés, présents et à venir. Georges Fromentier, dont la vanité professionnelle était légèrement piquée, ne put s'empêcher de dire « Dans cette annonce sensationnelle, il me semble qu'il entre beaucoup de vantardises de ce que les Américains appellent du bluff ou du humbug et que l'argot dénomme de l'épate ou du battage. » « Oui, cela est fort possible, répliqua Germaine, mais en tout cas, ce Timothée Fram ne manque pas de crânerie. « Vous commencez sans doute, mademoiselle, murmura Jean avec dépit, à revenir de vos préventions contre lui ?»« Oh, ma foi, non !» s'écria Germaine en riant aux éclats. « Monsieur Timothée Fram n'est peut-être qu'un habile charlatan, un réclamiste ingénieux. Mais fût-il un héros, ce ne serait jamais à lui que j'accorderais ma main. Son voyage aura cela de bon pour moi, de me débarrasser de ses obsessions. » Germaine fut brusquement interrompue au milieu de sa phrase. C'était la jolie Bretonne, Jannick Madurek, qui apportait une lettre à sa maîtresse. Germaine déchira l'enveloppe et son regard courut tout de suite à la signature. « Par exemple, s'écria-t-elle, et moi qui vous disais à l'instant même que le voyage de Timothée Fram allait me débarrasser de ses prétentions. » Et elle lut à haute voix. « Mademoiselle, je dois tout d'abord m'excuser de la liberté que je prends de vous écrire. Les convenances exigeaient que j'écrivisse à monsieur votre père en lui laissant le droit de vous soumettre ou non le contenu de ma lettre. Mais en présence des circonstances actuelles, j'ai cru pouvoir m'affranchir pour une fois des règles de l'étiquette mondaine et je vous cède un trop noble caractère pour vous froisser d'une telle marque d'audace. J'ai agi avec beaucoup d'imprudence il y a quelques jours en venant si brusquement solliciter votre main. J'ai oublié que l'estime et l'amour d'une jeune fille ne se conquièrent pas avec des mots. Je vous en fais de nouveau mes excuses. Mais j'ai moi-même trop d'estime pour vous oublier ainsi. Je veux que la mauvaise impression que j'ai pu produire sur vous se dissipe entièrement et que vous m'estimiez à ma juste valeur. Je vais partir pour un long et périlleux voyage. Plaise à Dieu que j'échappe aux mille dangers qui vont se dresser sur ma route. Je reviendrai sain et sauf, je l'espère, et peut-être couvert de gloire. Alors, sans doute, une nouvelle démarche de ma part sera-t-elle plus favorablement accueillie. C'est ce que je demande à Dieu chaque jour. Encore une fois, pardon, mademoiselle, et veuillez croire la sincérité de mes sentiments. Signé Timothée Fram. Mais décidément, fit Germaine en repliant la lettre, ce monsieur Timothée Fram a pour moi une véritable passion. Et elle ajouta gravement, « Mais cela est fâcheux pour lui, car je ne l'aime et ne l'aimerai jamais. Je ne peux pas répondre à une lettre comme celle qu'il vient de m'écrire. » L'ingénieur Dubreuil, qui pendant tout le temps était demeuré silencieux, détourna la conversation. « Mes amis, dit-il, il y a dans tout ceci une chose à laquelle aucun de vous n'a peut-être fait attention. »« Eh bien ?» demanda Germaine. « Bien, d'après l'itinéraire qu'il a choisi, Timothée Fram suit la même route que nous dans le commencement de son voyage, et je vous avoue que cette circonstance m'intrigue et m'inquiète. Avec ces sournois d'anglo-saxons, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Georges Fromentier et son cousin, Germaine elle-même, essayèrent de rassurer M. Dubreuil. Ils lui démontrèrent qu'il était impossible que le reporter fût au courant de leur projet et qu'il pût rien tenter contre l'expédition. Mais ils eurent beau faire, l'ingénieur demeura sombre et pensif. On se sépara ce soir-là plutôt que de coutume. Il semblait qu'un imperceptible nuage d'inquiétude eût assombri les beaux projets de la guerre. Chapitre 6. Il y avait 8 jours que l'ingénieur Dubreuil et ses amis avaient quitté Canton et commencé le voyage qui ne devait se terminer qu'aux environs de Lhassa, au monastère bouddhique habité par le lama Patlunkei. Il n'avait plus entendu parler de Timothée Fram, qui avait disparu mystérieusement plusieurs jours avant leur départ, et les inquiétudes qu'ils avaient à un moment conçues au sujet de l'anglo-saxon étaient complètement dissipées. Ils ne pensaient plus à cet original. L'ingénieur Dubreuil avait reconquis tout son calme et toute sa gaieté. Avant de partir, il avait chargé un commerçant de ses amis de s'occuper de la liquidation de ses affaires et de la demande d'indemnité relative à sa plantation. Il avait été aussi faire visite au prêtre bouddhiste qui lui avait remis la lettre de Patlunkei, et celui-ci l'avait assuré qu'il trouverait dans tous les monastères que la caravane rencontrerait dans son passage un excellent accueil. Il n'avait donc plus guère de soucis pour l'avenir. Après y avoir mûrement réfléchi, l'ingénieur Dubreuil et Georges Fromentier, les deux chefs réels de l'expédition, avaient décidé que le trajet se ferait par eau pendant la première partie du voyage. Il remonterait ainsi la vallée du fleuve Sikiang jusqu'à l'endroit où il cesse de devenir navigable, traverserait ainsi les 3 provinces du Kwantung, du Kwangxi et du Yunnan. C'est seulement à partir du Yunnan, province limitrophe du Tibet, qu'il commencerait à faire route par terre et que le voyage deviendrait véritablement fatigant, sinon périlleux. Jusque-là, l'expédition s'annonçait comme une véritable partie de plaisir. L'ingénieur avait acheté 2 grandes jonques pourvues de larges voiles en bambou tressé. L'action de ces voiles était destinée à aider les rameurs qui, dans 2 chaloupes reliées aux jonques par des câbles, faisaient tous leurs efforts pour remonter le courant. Ce mode de navigation était assez lent. M. Dubreuil aurait pu employer un remorqueur à vapeur, mais, réflexion faite, il s'en était abstenu de crainte de réveiller le mécontentement des populations lorsqu'on serait arrivé dans la province de Guangxi, où ce genre de navigation était presque inconnu. La plus grande des jonques, dite jonque mandarine, était un véritable petit palais flottant, d'une propreté exquise et couverte à profusion de peintures, de dorures et de sculptures. L'intérieur renfermait plusieurs pièces éclairées par des fenêtres bizarrement découpées et garnies au lieu de carreaux de minces feuilles de talc. À l'avant se trouvaient la cuisine et le logement des mariniers. C'était dans cette jonque qu'avaient pris place l'ingénieur Dubreuil, Germaine, Georges Fromentier et son cousin Jean, Onésime et Janik. Le capitaine, un chinois maigre au large besicle et au sourire facétieux, se nommait Wang Qin. Plusieurs fois par jour, il venait s'informer de ses passagers avec les formules de politesse exagérées et habituelles à ses compatriotes. « J'espère, demandait-il avec force révérence, que les mouvements de mon ignoble jonque ne vous incommodent pas trop et que vous arriverez à supporter l'infecte nourriture de mon misérable cuisinier. » Monsieur Dubreuil, ou parfois Jean, qui faisait de rapides progrès dans la langue chinoise, ne manquait pas de répondre sur le même ton. Ben, « nous sommes enchantés. Ton merveilleux navire est pour nous un séjour de délices. Quant au mandarin de la marmite, c'est un homme incomparable et nous n'avons jamais rien mangé de si délicieux. » Le capitaine se retirait très satisfait, regagnait la petite soupente qu'il occupait à l'avant et d'où il ne cessait de fumer de l'opium du matin au soir. Germaine, à qui l'on traduisait les demandes et les réponses, prenait grand plaisir à cette petite comédie. Mais en faisant la part d'exagération de part et d'autre, chacun était obligé de convenir que l'installation à bord de la jonque était confortable et que la cuisine était excellente. Chaque voyageur était en possession d'une cabine confortable. Germaine, qui partageait avec Jannick sa femme de chambre, la cabine la plus vaste et la plus commode, avait décoré ce minuscule réduit avec un goût et une élégance charmants. Dans le logement de M. Dubreuil, on remarquait, à la place d'honneur, le Bouddha de bronze jadis offert par le lama Patlunkei, et dans la cabine où étaient dressés les lits de Jean Cascaret et de Georges Fromentier, ce dernier avait installé, à l'endroit le plus en vue, le portrait de sa fiancée perdue, d'André Dubreuil, la sœur de Germaine, mystérieusement enlevée par les pirates. Dans la seconde jonque, un peu moins somptueuse que la première, étaient logés les tirailleurs à la mine de l'escorte, Pao Ting, le survivant du désastre de la plantation, et le sergent Paulet, un vieux brave à moustache grise, toujours silencieux et esclave de la discipline. Les Chinois, engagés comme porteurs, ramaient dans les embarcations qui tenaient lieu de remorqueurs. Le programme de chacune des journées de voyage était identique. Chaque matin, au lever du soleil, on levait l'ancre et, pour se rendre propices les divinités des eaux, les hommes de l'équipage ne manquaient jamais de leur sacrifier des rondelles de papier doré et de brûler en leur honneur quelques bâtons de parfum. Puis on se mettait à la voile au bruit du tam-tam et des pétards. Les Chinois, on le sait, ne font rien d'important sans avoir fait partir quelques pétards. Les réjouissances comme les affaires sérieuses sont toujours accompagnées chez eux de cette innocente pyrotechnie. Le voyage n'était interrompu dans le cours de la journée que pour les haltes nécessaires au repos des rameurs ou lorsqu'ils prenaient fantaisie aux amis de l'ingénieur de s'arrêter pour visiter quelques pagodes ou quelques bourgades pittoresques. C'est une habitude chez les Chinois de ne jamais voyager pendant la nuit. Un peu avant le coucher du soleil, on jetait l'ancre dans le port de la ville riveraine la plus proche, et les voyageurs descendaient à terre. Pendant que les hommes de l'équipage renouvelaient les approvisionnements, ils allaient visiter la ville et montrer au préfet les passeports et les lettres de recommandation dont ils étaient pourvus et qui devaient leur éviter toute tracasserie et leur assurer un paisible voyage. Les magistrats chinois montraient généralement une exquise politesse. Ils priaient les nobles voyageurs de l'Occident d'accepter une tasse de thé dans leur chaumière, comme ils disaient humblement, et ne les quittaient pas sans leur avoir souhaité santé, richesse, longue vie et une foule d'autres prospérités, et Dieu sait si le code de civilité puéril et honnête des habitants du Céleste Empire contient de formules de salutations et de louanges variées. Mais ce sont des gens véritablement charmants, des hommes du monde parfait, s'écriait Germaine. Ce n'était vraiment pas la peine de tant hésiter pour entreprendre un voyage aussi agréable. Bon, ils sont charmants, répliqua Jean, parce qu'ils ne peuvent pas être faits autrement. Si la crainte salutaire des mandarins de Pékin et la terreur de faire intervenir les Européens nous les tenaient en bride, ils ne se feraient nul scrupule de nous emprisonner et surtout de nous extorquer de fortes amendes. Cependant, à mesure que l'on s'éloignait de Canton, les nombreuses jonques dont le fleuve était encombré d'abord se faisaient plus rares. Les rives étaient aussi moins bien cultivées. Souvent, on avait à traverser des vastes espaces incultes semés de gros blocs de rochers ou de plaines couvertes de roseaux et de joncs arides. Mais le paysage se renouvelait sans cesse et offrait au regard une suite de panoramas toujours variés. Tantôt c'étaient des forêts de bambous, tantôt des cultures de riz, des plantations de thé et de coton, tantôt des monticules couronnés par des pagodes aux murailles revêtues de briques de porcelaine, et partout une variété incroyable de sites et de perspectives. Mais nous faisons là un voyage ravissant, s'écriait Germaine. Ah, nous avons bien fait d'acheter ces jonques plus que d'adopter tout autre moyen de transport. Non seulement, répondait l'ingénieur, la navigation est le système de locomotion le plus agréable, mais c'est aussi le plus pratique. Les routes en Chine sont très mauvaises et très étroites. Les voitures chinoises ne sont pas suspendues sur des ressorts. On est obligé de s'y tenir assis, les jambes repliées, à la façon des Turcs ou des tailleurs. De plus, interrompit Georges, vous pourriez ajouter que ces routes sont remplies d'ornières et de gros cailloux. Mais alors, fit Germaine, on doit souvent verser. Bon, très souvent. Et c'est pour cela, dit-on, que les Chinois sont devenus si habiles dans l'art de guérir les entorses et de raccommoder les fractures. Mais le palanquin, demanda encore Germaine. Monsieur Dubreuil répliqua, « Oh, le palanquin est un peu moins dangereux, mais il est très incommode. C'est d'ailleurs le véhicule le plus populaire. Et les Chinois en ont montré tant d'hostilité contre l'établissement des chemins de fer que parce que les millions de porteurs actuellement employés dans toute l'étendue du Céleste Empire ont cru que les locomotives et les wagons allaient anéantir leur gagne-pain et les réduire à la mendicité. » À ce moment, Jean Cascaret, qui était absent pendant cette conversation, fit irruption sur le pont. « Mademoiselle, dit-il en s'approchant de Germaine, nous sommes à l'heure qu'il est en vue d'une petite ville qui, d'après le capitaine, doit s'appeler Li Changfu. Je crois avoir trouvé le moyen d'y passer une soirée intéressante. Mais comment cela ? En allant dîner à quelques restaurants chinois. L'idée me paraît excellente. » Monsieur Dubreuil s'était avancé. Monsieur Jean, dit-il, est toujours bien intentionné. Malheureusement, je ne crois pas son idée excellente pour cette fois. Et pourquoi cela ? Demanda Germaine. Bien parce que, répondit tranquillement l'ingénieur, les hôtelleries chinoises, surtout dans le centre de l'Empire, sont organisées d'une façon déplorable. Pardon, interrompit Jean. Dans les villes où nous sommes descendus jusqu'ici, j'ai déchiffré les enseignes de plusieurs hôtelleries et restaurants, des enseignes en beau caractère noir sur fond rouge. Partout, elles promettent non seulement une bonne cuisine, mais des avantages moraux fort appréciables. La paix, la concorde, la générosité et le désintéressement. Et de plus, l'abondance de toutes choses et l'accomplissement de tous les désirs. Monsieur Dubreuil, Georges et même Germaine ne purent s'empêcher de rire de ces promesses emphatiques auxquelles Jean avait la simplicité de se laisser prendre. Ce fut Georges qui se chargea de détromper son cousin. Heureusement, dit-il, que je sais à quoi m'en tenir sur l'inépuisable abondance que promettent ces enseignes trompeuses. Mais à peine a-t-on franchi le seuil de ces hôtelleries qu'on se trouve dans un véritable repaire de voleurs où chacun, maîtres et valets, s'agite à vous dépouiller tout en vous laissant périr de faim, de soif et de misère. Et M. Dubreuil ajouta « Oh, notre ami Georges a parfaitement raison. Et les Chinois voyageurs savent si bien ce qu'il vient de dire que les plus pauvres portent à leur ceinture un petit sac plein de thé et un autre de riz. » Tandis que les riches ne manquent jamais de se faire accompagner une sorte de boîte oblongue ou de garde-manger transportable, dont les compartiments renferment des provisions de poissons salés et de viande conservée. Oui, fit Georges, c'est ce qu'ils appellent Hong Liang, c'est-à-dire du sec et du froid. Jean baissait la tête piteusement. Mon cher monsieur Jean, fit Germaine d'un air de commisération. Vous n'avez pas de chance. Votre idée n'est pas aussi fameuse qu'elle en avait l'air tout d'abord. Oh, pardon, répliqua Jean. Permettez, mademoiselle, je ne me tiens pas encore pour battu, et je ne suis pas aussi ignorant, vous voulez bien le croire. Je sais parfaitement qu'en général ce que viennent de dire M. Dubois et mon cousin est exact. Les hôtelleries chinoises sont détestables. Mais vous en convenez alors, dit maniement Germaine. Oui, mademoiselle, mais je sais aussi que dans les grandes villes on rencontre des hôtelleries fort bien tenues. Quoiqu'elle n'ait pas beaucoup près le luxe et le confortable de nos hôtels européens. Et l'on peut, comme en Europe, s'y faire servir à la carte et demander ce que l'on désire. Vous savez sans doute, demanda M. Dubreuil, comment se fait le service et comment se règle l'addition dans ces établissements que vous paraissez si désireux de connaître? Ma foi, non, répondit Jean avec ingénuité. Bien rien n'est plus curieux, continua M. Dubreuil. Lorsque les convives sont installés, les garçons apportent les plats devant eux et en disent le nom en chantant, de manière à ce que tout le monde les entende. Ce système n'a d'autre but que d'exciter les dîneurs vaniteux à demander les mets les plus rares et les plus chers. À la fin du repas, le chef des garçons se place près de la porte et entend une autre chanson dont les couplets ne sont autres que la nomenclature des plats et dont le refrain annonce le total de la dépense. Ceux qui ont dîné avec parcimonie défilent alors d'un air honteux et humilié, comme s'ils ne savaient où se fourrer. Ceux qui ont au contraire fait beaucoup de dépenses se retirent avec une lenteur majestueuse, la pipe à la bouche, la tête renversée en arrière, le regard fier et dédaigneux. « Mais voilà qui doit être fort amusant !» s'écria Germaine. « Oh, je brûle de visiter ces restaurants chinois !»« Eh bien, nous irons !» s'écria Jean triomphant. « Vous voyez que mon idée n'est pas si mauvaise !» À ce moment, Wang Xian s'avança vers ses passagers. On voyait, à son air hébété et au parfum caractéristique qui s'échappait de sa personne, qu'il venait à peine d'abandonner sa pipe à opium. Il paraissait à la fois inquiet et consterné. « Mais qu'as-tu donc ?» lui demanda l'ingénieur. « Serais-tu malade ?»« Noble seigneur, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Oh non, je jouis d'une santé excellente, mais je crois que nous courons quelques dangers. Je vois s'avancer vers nous de grosses jonques noires, qui, portés par le courant que nous remontons, arrivent vers nous avec une rapidité extraordinaire. Ce pourrait bien être des pirates. Le pays en est infesté, et l'on en parlait beaucoup ces jours derniers. Eh bien, dans ce cas, que proposes-tu? Ben, je serais simplement d'avis de virer de bord et de prendre la fuite à force de rames. Tout en parlant, le capitaine, qui n'était rien moins que brave, était devenu fort pâle. Ses jambes flageolaient. « Retourner en arrière ?» s'écria bravement Germaine. « Prendre la fuite, mais retarder notre voyage ? Ah non, ne ferons pas cela. Je ne suis qu'une faible jeune fille, mais je suis prête à me battre s'il le faut. » Georges et Jean étaient absolument de l'avis de la jeune fille. Ils attendaient ce qu'allait décider l'ingénieur Dubreuil. Germaine a raison, décida-t-il. Nous sommes assez bien armés pour mettre en déroute ces écumeurs de rivière. Que l'on hisse le drapeau tricolore sur les deux jonques et que chacun s'apprête à combattre. Quant à toi, Germaine, ajouta l'ingénieur d'un ton qui ne mettait pas de réplique, tu vas descendre dans ta cabine. La jeune fille obéit avec une petite moue de mécontentement. Elle descendit lentement vers l'intérieur de la jonque. Elle avait été déjà devancée par le capitaine Chang Fu, qui, s'emparant précipitamment de ses appareils à fumer l'opium, avait disparu dans les profondeurs de la cale où il allait sans doute attendre l'issue du combat. Cependant, d'après les ordres de Georges, les deux jonques s'étaient rapprochées, avaient arboré le drapeau tricolore, et les tirailleurs en amides s'étaient répartis sur les deux navires. Sur le conseil de Georges, ils se couchèrent tous à plat ventre sur le pont, le fusil épaulé, le doigt sur la détente, prêts à tirer. Georges et Jean, qui s'étaient armés également, ainsi que le brave Onésime, s'étaient groupés autour du sergent Paulet, qui s'occupait aussi tranquillement de disposer ses hommes que s'il se fût agi d'une revue. Les deux jonques suspectes approchaient avec une grande rapidité. Dès que l'on pouvait distinguer leurs ponts encombrés d'une multitude de Chinois à haillons, qui brandissaient des fusils ainsi que des sabres, des hallebardes ornés de dents et de découpures. À la vue du drapeau tricolore, ils se mirent à pousser de sauvages hurlements, destinés sans doute à effrayer l'ennemi, puis ils firent au hasard une décharge générale de leurs armes. Personne ne fut atteint sur les deux jonques. « Ne tirez pas encore !» ordonna le sergent Paulet. Ils attendirent que les ennemis fussent presque bord à bord. Alors il commanda « Feu !» Des cris et des hurlements affreux retentirent du côté des pirates. Ils avaient été littéralement fauchés par les balles. Mais ils restaient encore très nombreux. Leur chef les raillait énergiquement, et comme les jonques se trouvaient bord à bord, il leur était facile de s'élancer à l'abordage. Il s'agissait de prendre les devants et de les en empêcher. Le revolver au poing, le sergent Paulet, Jean Cascaret, l'ingénieur Dubreuil et Georges Fromentier s'élancèrent. Ils firent des pirates une terrible carnage. Tous se battirent comme des lions. Après une lutte acharnée qui dura près d'une heure, ils regagnèrent leur jonque. Les pirates avaient été à peu près exterminés. Leur navire, maintenant dépourvu de rameurs, fuyait emporté au fil de l'eau. L'ingénieur Dubreuil défendit qu'on les poursuivît. Il ordonna au capitaine Wang Tian et à ses hommes, que l'on eut grand-peine à décider à sortir de la cale, de gagner au plus vite la ville dont on apercevait dans le lointain les pagodes et les toits de tuiles coloriées. « Mais c'est impossible !» s'écria le capitaine Wang Tsien. Et il montra, d'un geste désespéré, les cordes de remorque. On s'aperçut alors que les coolies chinois avaient profité du combat pour s'enfuir à force de rames. La ville, heureusement, n'était pas éloignée, et comme le temps était favorable, on avait des chances d'y arriver en moins d'une heure. Toutes les voiles furent hissées. Le capitaine Changfu, au grand amusement de Germaine, félicitait maintenant les nobles seigneurs de l'Occident de la brillante victoire qu'ils avaient remportée. Pendant que les jonques faisaient lentement route vers la ville, Germaine, qui avait ouvert la pharmacie de voyage, voulut elle-même panser les blessures des tirailleurs. Tous la remerciaient dans leur mauvais français, et baisaient ses belles mains blanches. À voir leurs longs regards émus, à entendre leurs remerciements, il était aisé de voir qu'ils adoraient la jeune fille et qu'ils se seraient fait tuer jusqu'au dernier jour pour la défendre. Aucune des blessures, d'ailleurs, n'était sérieuse. Seul Jean Cascaret avait eu le bras entamé par un coup de lance. Germaine le pansa avec un soin tout particulier. Et comme il la remerciait en rougissant, « Mais puisque nous autres femmes, dit-elle, nous ne pouvons nous battre, c'est bien le moins que je me rende utile à quelque chose. » Jean ne répondit rien, mais il était profondément ému de tant de grâce, de simplicité et d'héroïsme. Il n'était pas encore nuit quand les jonques mirent l'ancre dans le port de Lichangfu. Les chefs de l'expédition, y compris Germaine, descendirent à terre et se rendirent au plus tôt chez le préfet de la ville pour lui montrer leurs lettres de recommandation et leurs passeports et pour lui rendre compte de la bataille livrée aux pirates du fleuve. Le mandarin, un petit vieillard à l'air méticuleux et sévère, félicita sans grand enthousiasme les Européens de leur victoire. « Je ne vous conseille pas, leur dit-il, de continuer votre route par eau. Les rebelles en sont maîtres sur une très grande étendue. Si vous m'en croyez, vous passerez la nuit dans le palais des Courcours. Demeurez dans vos jonques sur le fleuve serait imprudent. Demain, nous aviserons aux meilleures parties à prendre pour vous. » Monsieur Dubreuil remercia le mandarin et, sous l'escorte d'un serviteur du préfet, l'on se mit en marche vers le palais des concours, ainsi nommé parce que c'est là qu'ont lieu à des époques déterminées les examens des lettrés qui veulent obtenir le grade de mandarin. Le palais était un superbe édifice situé au milieu d'un jardin planté de beaux arbres et dont la façade était décorée de grands vases de porcelaine et d'escaliers de marbre. Les tirailleurs anamites et les hommes d'équipage des deux jonques, que le serviteur du préfet était allé prévenir, ne tardèrent pas à arriver et tout le monde se trouva confortablement casé dans les appartements du vaste édifice. M. Dubreuil et ses amis se trouvaient réunis dans le jardin en attendant que le repas fût prêt, lorsque, de la rue voisine, déboucha une troupe d'hommes chargés de fardeaux qui s'engagèrent sous le portique d'entrée et pénétrèrent délibérément dans le jardin du palais. Il faisait presque nuit. Georges Fromentier s'avança pour reconnaître à qui ils avaient affaire, et tout à coup, il poussa un cri de surprise. « Timothée Framme ! » s'écria-t-il. C'était en effet le reporter anglo-saxon et son domestique John Murdoch qui marchaient à la tête des coulis.